Cette émission est une rediffusion.
Le Green Ring, rassurez-vous, vous n'y serez pas en combattant, mais en tant qu'auditeur. Le Grand Ring, c'est la plus grande arène, la plus grande émission politique qui lève le voile sur l'actualité, décortique l'actualité dans ses moindres détails. Boukabari, Mohamed Lamine Yansami, Barry Mamadou 2, détiennent les gros mots de l'actu. Avec le Grand Ring, les hommes politiques, activistes de la société civile, les grosses têtes vous disent tout. Préparez vos gants, car le Grand Ring, c'est de lundi au vendredi, de 7h30 à 9h sur le réseau synchronisé des radios Sabari FM. Nous faisons le remblai du déficit d'information. Le Grand Ring, ici, la vérité survit sur le détour des manipulateurs. Nos auditeurs prennent également la parole dans le Grand Ring en réagissant en direct sur les 621 48 48 48 ou 655 75 75 75 par SMS et sur nos plateformes.
Décortiquer l'actualité dans toutes ses composantes, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés à travers l'émission Le Grand Ring sur la mer des bandes FM en Guinée, Sabari FM 97.3. De par cette émission, des chroniqueurs sans passion, rompus d'objectivité, de neutralité, de responsabilité, passent de bout en bout des critiques sur des sujets qui concentrent l'actualité nationale et internationale. Au menu, en ce 1er septembre 2022, grande sortie, grand soutien du parti RPG en 2010 au second tour de l'élection présidentielle de la même année, avant une séparation fatale, le Parti de l'Espoir pour le Développement National PDN de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, même s'il a du mal à s'imposer sur le plan politique, continue son petit chemin des critiques tout au long de la gestion de la gouvernance d'Alpha Condé. Le PDN garde toujours espoir d'arriver un jour au sommet de la magistrature suprême. De quelle coalition politique figure-t-elle? Quel est son regard sur la gestion de la transition? Est-il le parti que le CNRD soutiendrait dans l'ombre? Quelles sont les raisons de la tournée de son président dans la sous-région? Ce sont entre autres questions que nous allons aborder avec le responsable de la communication de cette formation politique, qui n'est autre que Mohamed Cissé. C'est une véritable rencontre de ring qui s'est tenue hier à la Haute Autorité de la Communication HAC. Pourtant, bien débutée cette rencontre qui a enregistré la présence des responsables d'associations de presse, de journalistes, patrons de médias et syndicats, et qui s'est déroulée sous des thématiques principales, à savoir le partage de la subvention et les dérapages enregistrés dans l'exercice de la profession, a permis aux uns et aux autres de se dire les vérités crues pour la bonne marche de cette profession. À la grande surprise, le SPPG et le président de la HAC se sont livrés à un véritable ring qui d'ailleurs a précipité la clôture de cette rencontre. Quelle a été la cause de cette dispute, je dis bien dispute, entre le doyen Yassine Diallo et Sekou Jamal Pendessa? Et réponse dans cette émission avec le secrétaire général du SPPG pour Sekou Jamal Pendessa, qui nous en dira un peu plus dans cette affaire. Auditeurs de Cancan, Kissidougou, Kindia, Dalaba, Conakry, mais aussi à l'extérieur du pays, nous vous disons très merci pour votre fidélité encore une fois renouvelée sur la 97.3. C'est parti pour 90 minutes de débat sur les antennes de la radio Sabari FM. Bonjour et bienvenue.
Le Grand Ryoga, le combat sera rude, sur la vérité survivra. Bienvenue au Colosse de l'info.
Technique Mfamoussa Souma, à mes côtés Mohamed Lamine Yansané, l'enfant de Forcaria. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour Boukabari et bonjour à la brave population de Conakry sous cette pluie matinale.
Je le disais dans l'introduction de cette émission, nous allons prendre la direction de la Haute Autorité de la Communication, où le président de cette institution a conféré hier avec les responsables de médias, patrons de presse, journalistes, mais aussi responsables d'associations de presse. Cette rencontre qui s'est déroulé sous deux thématiques principales, je le rappelle, c'est-à-dire le partage de la subvention, mais aussi les dérapages à registrer dans l'exercice de cette profession, a été aussi une rencontre qui s'est soldée par quelques disputes entre Sekou Diamal Pendessa, le secrétaire général du SPPG, et le président de cette institution, Aboubakar Yassine Diallo.
Oui, ce qu'il faut dire, d'abord que, aussitôt que le communiqué de la HAC est tombé, je crois, lundi, nous avons en quelque sorte décortiqué cette thématique mardi ici dans ce même studio, parce qu'il faut dire que la HAC est véritablement dans son rôle rogalien de convoquer le régulateur, elle est une institution régulatrice des médias, parce que si nous disons que nous sommes dans un état démocratique, les journalistes ne doivent plus être convoqués dans les tribunaux ni dans les camps militaires ou dans les gendarmeries, il va falloir qu'il y ait une structure d'autocritique. La HAC est là pour ça, c'est-à-dire que la HAC c'est pas une justice, c'est pas un tribunal, c'est pas une gendarmerie. L'institution est là pour permettre aux journalistes de s'auto-critiquer. C'est un conseil de discipline. Alors, si la HAC estime que en cette période de transition, parce qu'il faut dire que nous sommes dans une période extrêmement sensible, moi je me rappelais encore en 2010, la Guinée a traversé beaucoup de périodes extrêmement compliquées. Alors, si la HAC, il faut savoir que les médias jouent un rôle extrêmement important. Si la HAC estime que les journalistes doivent jouer à l'apaisement, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de dérapages aujourd'hui dans la presse. Si la HAC estime qu'il était vraiment nécessaire de faire appel à ces hommes de médias et de leur dire la responsabilité qui est la leur, je pense que c'est extrêmement important. Parce que beaucoup de journalistes estiment qu'ils sont des extra-citoyens. Non. Le journaliste joue un rôle dans la société comme le militaire, comme le policier, comme l'enseignant, comme le médecin. Il n'est pas un super-homme. Il est régi par des textes, et ce sont ces textes qu'il doit véritablement respecter. Malheureusement, c'est vrai que nous sommes de la corporation, mais il faut reconnaître que, moi je le dis honnêtement, que j'écoute rarement les radios, parce qu'il y a beaucoup plus de confrères lorsque vous les écoutez. Parfois, vous n'avez pas envie de vous présenter à quelqu'un que vous êtes journaliste. Alors, si la HAC estime que ces dérapages commencent à être de trop, alors que nous sommes dans une période extrêmement sensible, il était de son rôle régalien de convoquer les médias, d'inviter les journalistes à une rencontre de sensibilisation, maintenant à une rencontre d'échange, pour rappeler, parce que il y a quelque temps, le code de bonne conduite a été élaboré. Donc voilà entre autres sujets qui doivent permanemment, en tout cas ce sont pour moi des rencontres qui doivent se tenir de façon permanente, régulière, pour permettre aux journalistes, parce que comme on le dit chez nous en Soussou, que le milon, lorsque vous devez le préparer, vous devez mettre encore de l'eau, parce que le journaliste, même s'ils ont des formations requises pour ça, même s'ils ont assez d'expérience, même s'ils exercent sur le terrain, il va falloir régulièrement réchauffer la mémoire, rappeler ce qu'ils doivent faire. Maintenant, à côté de cette rencontre hier, le président de la HAC a profité pour revenir un peu sur la répartition de cette manne financière.
Avant de parler de cet aspect, nous allons demander à Famoussa Souma, notre technicien du jour, de nous faire écouter Aboubakar Yassine Diallo, qui a quand même déploré cette injustice, si on peut se le permettre, de l'Urtelgui, mais aussi de l'Aguipel en ce qui concerne cette répartition, parce qu'il s'est dit vraiment choqué de constater que des journaux ou des sites reçoivent beaucoup plus de montants par rapport aux radios qui, selon lui, ont beaucoup de dépenses à faire, contrairement à ces sites et à ces journaux. Nous allons partir avec, pour écouter, au président de la haute autorité de la communication, Aboubakar Yassine Diallo, qui déplore cette répartition, cette manière dont cette subvention a été répartie par certaines associations de presse.
Il apparaît de plus en plus évident que les associations doivent revoir la clé de répartition. Parce qu'il est inadmissible qu'un site d'information ou qu'un journal papier gagne plus qu'une radio et une télé. L'année dernière, comme cette année, c'est plus pire, les journaux écrits, y compris le Lynx et l'Indépendant, qui sont les plus anciens, sont à peu près 50 millions, alors qu'une télévision à 25 millions. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas juste. Tant du point de vue des efforts en matière d'équipement que de personnel, de logistique et de tout ce qui s'ensuit. Donc, j'attire l'attention des présidents des associations. Dorénavant, de mettre face à face les organes. Qu'une télé gagne plus qu'une radio gagne plus qu'un site gagne plus qu'un journal ou un journal plus qu'un site. Ça, c'est ils arbitreront entre eux. Parce que sinon...
Vous venez d'écouter Aboubakar Yassine Diallo et il est avec nous. Faya Eloi Kamano, bonjour. Fallou Laouche.
Alors Kené, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Très bien. Oui. Vous venez d'écouter Aboubakar Yassine Diallo qui déplore que cette méthode par laquelle l'Urtelgui et la Guipel ont proche parce que l'accent a été mis sur ces deux associations. Vous le comprendrez dans quelques instants parce que dans la deuxième partie, il déplore le fait que l'Urtelgui attribue des montants à certaines radios qui ne sont pas fonctionnelles, mais aussi de la Guipel qui attribue des montants à des sites qui n'existent plus.
Vous savez, si le doyen parle ainsi, moi je dirais qu'il était là avant d'être à la HAC. Et ce n'est pas.
Sauf qu'il n'est pas. Qu'il non, mais écoutez, pas non, dans la répartition de, ce, de, Dieu, de cette subvention.
Dieu merci, il était à l'Urtelgui avant d'être à la HAC. Ça, il faut le respecter.
Sauf que là, nous parlons de ce qui s'est passé cette année.
Non, mais ce n'est pas cette année seulement.
Non.
La répartition n'a pas démarré cette année de la sorte. Il vous souviendra que depuis qu'il était avec l'Urtelgui, c'est la même méthode. Et c'est la même méthode qui continue. Et ils n'ont pas changé de donne. Donc, si aujourd'hui, monsieur le président de la HAC critique la méthode utilisée, critique la méthode exploitée par les associations de presse en ce qui concerne la répartition de cette subvention étatique, je dirais que le président de la HAC, oui, c'est, il relève de son devoir pour faire comprendre aux uns et aux autres que la méthode employée depuis ou utilisée depuis des années doit maintenant changer. C'est ce qui peut être bon à entendre, mais dire qu'il ne faut pas mettre la radio, la télé. Tout le monde le sait parce que si vous regardez l'équipement d'abord, il a dit dans son intervention, l'équipement pour la télé, je pense que c'est énorme. Les dépenses sont énormes.
Les radios aussi.
Les radios, ouais. pour mettre en place une radio, et mon ami, il faut avoir des moyens de ta politique, sinon vous risquez d'arrêter le lendemain même de l'installation de ta radio. Donc, par rapport au site, aux journaux, je pense que la répartition, comme il a dit, ils doivent changer de méthode, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils devaient le faire. Depuis quand il était à l'Urtelgui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est aussi patron, quelque part. Donc, il doit échanger avec ses patrons et pour les faire comprendre, des présidents des associations, qu'il faut changer de méthode. Au regard de ce qu'on fait présentement en matière de dépenses, les télés, les radios dépensent plus que les autres canaux de communication. Je veux parler des sites, des journaux, parce que le site, le papier, ce ne sont pas les mêmes prix. Le site, il faut négocier avec le webmaster, aller toujours sur le net, tout ça là. On tient compte des dépenses. Si aujourd'hui le président, c'est lui qui gère, c'est lui qui coordonne aujourd'hui la gestion des médias en République de Guinée, ça rend
pas
compte...
côté répartition de la subvention. Non, la précision est importante. La HAC n'a rien à voir avec la
je
répartition.
Je vous dis, j'ai fait un rappel des faits. Il était là. C'est pourquoi j'ai dit il était là. Ce n'est pas aujourd'hui que la chose existe. La maladie existe depuis que Yassine était d'abord, à un moment donné, président de l'Urtelgui. Après l'Urtelgui, il est allé maintenant à la HAC. Donc, il ne peut pas venir aujourd'hui dire il faut changer de méthode, il faut changer... C'est quand il était là, il pouvait aussi changer la donne.
Et
mais aujourd'hui, si c'est venu dans sa tête pour dire il faut changer la méthode par laquelle on fait la répartition ou les répartitions sont faites concernant la subvention de l'État, c'est une bonne chose, mais... Il faudrait que qu'on prenne aussi les charges des autres organes de presse. Si pour pas dire que non, le président de la HAC a dit, et le site ne gagne plus rien, les journaux ne gagnent plus rien.
C'est quand même inadmissible qu'un journal puisse avoir 50 millions et qu'une radio n'a que 25 millions. C'est inadmissible, Yassani.
Non, je crois que l'erreur d'abord vient au niveau de la HAC parce que. Je crois que c'est 3 milliards qui ont été débloqués.
300 millions.
Et quelques poussières qui ont été débloquées cette année. Et l'argent, lorsque le montant a été débloqué, le président de la HAC a fait un communiqué pour inviter les associations de prêts et pour annoncer le montant. Et c'est la HAC, à ma connaissance, qui a reparti, qui a procédé à la répartition de ce montant, à programmé un montant pour la pour l'URTELGI, pour l'AGPI, l'AGIPEL, je crois, et la Maison de la Presse. Je crois que ce sont les quatre associations, les quatre structures qui ont bénéficié de ce montant, et graduellement, ainsi de suite. Je crois que d'abord, l'erreur, mon point de vue, vient d'abord de la répartition de ce montant, de la répartition d'abord de ce montant au niveau de la HAC. Parce que je n'ai pas encore, je recherche encore ce tableau de répartition effectué par la HAC, je crois, il y a 4-5 mois derrière nous. Et parce qu'aujourd'hui, c'est, le réseau synchronisé des radios privées, je crois, c'est autour de 60 médias privés. Radio, télé, y compris, c'est autour de 60 médias. Deux médias seulement dépassent l'ensemble des journaux de la République de Guinée. Deux médias seulement. Deux médias seulement l'ensemble dépasse l'ensemble des sites de l'arbre. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Ça, c'est une réalité. Deux médias seulement, je ne cite pas de nom, mais deux groupes de presse, radio, télé, seulement dépassent l'ensemble des journaux et l'ensemble des sites en termes de dépenses. C'est inadmissible. Je crois que, comme Éloi l'a dit, je crois que c'est une maladie, c'est une plaie qui était là. Peut-être qu'elle s'est gangrénée cette année, mais malheureusement, je crois qu'on doit revoir cette situation. Et il l'a dit. Aujourd'hui, c'est vrai que Conakry, on parle de 26 radios privées, mais sur les 26, il y a beaucoup qui ne fonctionnent pas.
C'est là encore le hic, parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que l'URTELGI, qui doit avoir les statistiques actualisées, peut attribuer des montants à des radios.
Attention, l'URTELGI ne se mêle pas dans la gestion intérieure des associations.
Attention,
la précision est importante.
Allez-y.
Lorsque le montant a été débloqué, les 3 milliards 300 et quelques ont été mis à la disposition de la HAC, la HAC a reparti ces montants en fonction aux quatre associations, comme je l'ai rappelé tantôt. Ils revenaient à ces quatre associations, à l'intérieur de leur structure, de procéder à la répartition à leurs différents membres. À ce niveau, la HAC ne s'y intéresse pas,
C'est là que je parle.
Peut-être que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, la HAC peut procéder, en tout cas, à travers une collaboration avec les autres associations de presse, voir quels peuvent être les nouveaux critères à mettre en place pour permettre à ce que certains médias ne seront pas zélés par rapport à d'autres. Parce que c'est inadmissible qu'un journal papier, quelle que soit la durée, quel que soit l'âge...
Lynx à 52 millions. Est-ce que des radios qui ont du carburant à dépenser
par exemple, lorsque
50 litres, 60 litres, 70 litres n'ont même pas reçu 30 millions.
Lorsque vous prenez par exemple les journaux, il y a une clé de répartition qui est là, c'est en fonction de la parution. Si c'est des journaux mensuels, est-ce que vous avez respecté vos 12 numéros? Si c'est des journaux hebdomadaires, je crois que c'est 52 numéros. Est-ce que vous avez respecté? En fonction de ça, en fonction du siège et du personnel, ainsi de suite, il y a quelques critères qu'ils mettent en place là. Mais je crois qu'aujourd'hui, en principe, de mon point de vue, parce que cette question de subvention commence à déchirer la presse, moi j'invite l'État d'ailleurs à suspendre temporairement cette subvention. Il faut qu'on soit très clair, parce que aujourd'hui, le président Yassine l'a rappelé. En 3 mois, il y a 20 sites qui ont été créés. Donc on a comme l'impression que cette subvention veut être une vache laitière, veut être une opportunité pour certains médias.
Pour des personnes.
Parce qu'il l'a rappelé une fois aussi, je crois, il y a 3 mois derrière, que il y a des sites aujourd'hui qui ont 17 millions. Les 17 millions, il dit, lorsque vous faites la répartition sur 12, pratiquement, ce site peut avoir 1 700 000. Donc, il crée juste le site qui ne fonctionne pas. Il est le seul reporter journaliste pour bénéficier de la subvention et pour avoir de l'emploi sur le dos de l'État. C'est inadmissible. Je crois que, de mon point de vue, l'État doit procéder à la suspension de cette...
Ce que tu ne maîtrises pas, je pense qu'il ne faut pas aller sur ce terrain. Je dis que les sites aussi sont payés en fonction du rendement sur le terrain. On tient compte d'abord
Sauf qu'il y a des sites qui n'existent pas.
C'est ce qui est vérifié.
Yassine a rappelé un site qui n'existe pas.
Dieu merci que le site n'existe pas.
Vous pouvez cliquer sur
tout de suite, la répartition est toujours faite en fonction de la visibilité du site, en fonction du local, en fonction du personnel.
Sauf qu'il y a des sites qui n'ont pas de local.
Quand vous regardez l'architecture aujourd'hui de la République de Guinée des sites électroniques,
Honnêtement, vous n'avez pas 10 sites qui ont des sièges et fait. Qui ont 5 journalistes. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas me citer 10 sites qui ont des sièges et qui ont 5 journalistes payés par mois. Il n'y a pas.
Yansané, c'est lui qui met les principes, dire qu'on ne me retire pas la parole, je te donne quand tu veux. Quand j'ai mon temps d'antenne, il faut qu'il respecte ce temps d'antenne. Non, pas du tout.
C'est moi qui répartis la parole.
Non, non, mais il doit respecter mon temps d'antenne. Il a fini de parler, moi je n'ai rien dit. Non, attention.
Allez-y.
Je disais, c'est son opinion, il a fini de parler, tu me laisses parler aussi.
Allez-y.
Donc, il ne faut pas aller sur un terrain que tu ne maîtrises
allez-y.
Pas. Moi, je ne...
Comme vous.
Donc, il est journaliste comme moi,
allez-y.
Mais il n'a pas les mêmes données que moi, il n'a pas les mêmes informations que
allez-y,
moi.
Loi.
Dieu merci. Oui. Je disais tantôt, si vous dites qu'il y a des sites, peut-être que monsieur le président de la HAC a des informations que je n'en ai pas, mais aucun site n'est payé ou n'est subventionné qui est inopérationnel. C'est la première des choses.
Okay.
C'est le premier critère.
Là-dessus,
la vérification.
Là-dessus, la réponse, vous l'aurez dans l'intervention d'Aboubacar Yacine Diallo et c'est dans la deuxième partie de cette émission.
Merci.
Écoutez tous. Nous ne soyons pas dans la même pièce.
Responsable de la communication du Parti de l'Espoir pour le Développement National PEDN, Mohamed Cissé. Dans quelques instants, il aura en découdre avec les animateurs de cette émission. Je le disais tantôt dans l'entame de cette émission. Grand soutien du parti RPG en 2010 au second tour de l'élection présidentielle de la même année. Avant une séparation, le Parti de l'Espoir pour le Développement National PEDN de l'ancien Akouyaté continue son chemin pour briguer la magistrature suprême. De quelle coalition politique figure-t-il? Quel est son regard sur la gestion de la transition? Est-il le parti que le CNRD soutiendrait dans l'ombre? Quelles sont les raisons de la tournée de son président dans la sous-région? Ce sont entre autres questions que nous aurons à poser à notre invité qui est déjà avec nous dans cette émission, Mohamed Cissé. Merci d'avoir répondu à cette invitation de la Radio Sabari FM.
C'est moi qui vous remercie.
Bien avant d'aller avec vous, Yansané, nous allons terminer le dossier haute autorité de la communication et nous allons cette fois-ci demander à notre technicien Famoussa Souma de nous parvenir cette répartition qui jugée vraiment injuste de la part d'Aboubacar Yacine Diallo. Vous comprendrez parce que l'IRTELGI, l'AGIPEL ont attribué des montants à des sites, à des radios qui ont fermé portes et fenêtres depuis maintenant des mois.
Je pense que parfois vous accordez de l'argent à des gens qui ne sont pas au courant. Ça m'étonne un peu. Les associations affectent un montant à un journal qui ne vient pas toute l'année. Or, quand l'année passe, nous ne pouvons plus exécuter la dépense pour l'année suivante. Donc, veillez à ce que vos membres sachent au moins qu'ils ont de l'argent là. Aujourd'hui, par exemple, pour les radios, on a encore dans notre compte 73 500 000. Ça équivaut au montant que des radios ne sont pas venues prendre. Bonheur, Mercure, Lynx FM, Africa Today, Chérie FM sont pas venus chercher. Ils ont en tout 73 500 000 francs guinéens. S'ils existent encore, ils viennent prendre leur argent. Si l'année passe, on ne leur payera aucun franc. Agifel, il vous reste 36 694 980. Vous avez une quinzaine de sites. Couleur de Guinée, La Plume Plus, Guinée Culture, Dépêche Guinée, Réveil Guinée, Le Courrier de Conakry, Afro-Guinée, le Conakrita, Kibangui, Territoire Guinée, la Matinale Guinée, le Matinale Plus Guinée, Guinée 33.com, Guinée Future Info, GuinéeInfo.com, Conakry Sport, le Réquisitoire. Voilà. Donc ces sites-ci, vous connaissez leurs propriétaires, dites-leur qu'ils ont encore de l'argent ici jusqu'en fin d'année. L'année passée, on ne pourra pas le leur payer. Donc ça, c'est pour la subvention.
Faya et Loa Kamano. Claire, comme on dit Roche.
Ah mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, Yacine, ça relève de ses prérogatives. Il gère aujourd'hui des journalistes en République guinéenne, des organes de presse.
Yacine régule, il ne gère pas des journalistes.
Non, mais il nous gère.
La haute autorité de la communication contrôle les activités que mènent les journalistes dans l'exercice de leur profession. Mais il n'est pas là à s'immiscer. Encore une fois, la précision est importante. Yacine ne gère pas la subvention. Quand la subvention tombe, il ordonne à ce que l'argent soit transféré sur le compte des différentes associations de presse.
Tu as fini?
La suite, c'est pas de son problème.
Tu as fini?
Oui.
Est-ce que dans mes propos, j'ai dit que Yacine gère la subvention des associations de presse? On peut revenir, parce qu'il y a la VAR qui est là. Je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, c'est Yacine qui coordonne
des journalistes en République de Guinée dans le respect de l'éthique et la déontologie du métier. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et revenir maintenant dire, il y a des sites, parce que Jacine a cité beaucoup de sites, beaucoup de radios, quelques journaux, je pense. Et dit que ces journaux, ces sites ou ces radios ne sont toujours pas venus chercher leur argent. Je ne sais pas la cause parce que je ne suis pas patron de ces sites ou de ces radios. Mais à ce que je sache, le problème se trouve au niveau de la répartition. Il y a des radios. Vous savez, le système mis en place pour cette répartition, je n'apprécie pas la méthode. Lorsque vous dites à une radio ou à un patron de radio, nous venons chez vous demain matin ou la semaine prochaine. Mais il va se mettre dans une position confortable.
La question se situe, c'est-à-dire le fait que l'Urtelgui attribue des montants à des radios qui ne fonctionnent
pas. Ce n'est pas... Quel l'Urtelgui ? Vous parlez de quel l'Urtelgui ? Est-ce que le problème se trouve seulement au niveau de l'Urtelgui ? Je dirais non. C'est au niveau de toutes les associations. C'est la méthode que je suis en train de te parler.
Sauf que c'est l'Aguipel et l'Urtelgui qui sont indexés par...
Non, mais écoutez, ce ne sont pas des seules associations de presse qui aujourd'hui font ce partage. Mais lorsqu'on t'appelle, par exemple, au niveau des sites et des radios, on te dit, après demain, on sera chez vous. Même, il faut organiser des rencontres inopinées. Vous venez dans les rédactions, chaque rédaction, c'est à partir de 7h, 8h, 9h, 10h, les journalistes sont là pour le conseil de rédaction. Vous demandez juste vos heures d'édition d'information. Si vous écoutez, il dit 13h, il n'y a rien. À 14h, il n'y a rien. À 12h, il n'y a rien. Mais dites-vous que la radio ne fonctionne pas, la radio n'a pas de personnel. Vous voyez même lors des compétitions sportives, vous verrez des radios qui n'ont aucun journaliste, qui n'ont que juste des spots publicitaires pour faire passer et au niveau de lorsqu'on organise des compétitions sportives et ils sont contraints des patrons de presse d'aller dans les quartiers
pour nous parler de cette irrégularité au niveau de l'Urtelgui que Abakar Camara, le président de l'Urtelgui. Monsieur Camara, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Hier, à une rencontre avec les responsables de médias, le chef de cette institution a déploré le fait que l'Urtelgui attribue des montants à des radios qui ne fonctionnent pas. Qu'en dites-vous?
Qui vous a donné cette information?
Il y a le son de Yacine qui est là.
Ah.
Parce que hier, il a cité des radios qui ne marchent pas depuis des mois, mais à qui vous avez attribué des montants.
Il vous a dit ça?
Oui.
Est-ce que vous l'avez bien compris?
Quelle est votre réaction? Vous, comment est-ce que vous avez compris?
D'abord, il faut comprendre que la subvention que l'État accorde pour le fonctionnement des médias, pour aider au fonctionnement des médias, le TEGI est dans cette idée, est dans cette dynamique. Ce n'est pas parce qu'un média a eu une décharge sur ses installations, son émetteur a eu une panne, son antenne est tombée par faute des intempéries naturelles, et que pendant 6 mois, le média est en train de se battre, tout le monde sait ce que c'est que le prix des équipements qui rentrent dans le cadre justement de la FM ou de la TV, diffusion en faisceau hertzien, que la subvention que l'État accorde, l'Urtelgui peut se permettre, ne serait-ce que 6 mois ou 7 mois de non-fonctionnement d'un média, de priver ce média de ce montant. Certes, le média ne peut pas avoir le même montant que les autres, mais nous accordons le montant, un montant symbolique à ces médias pour leur dire, un, vous êtes au sein d'une association qui est l'Urtelgui, et nous sommes ensemble. Deux, nous sommes conscients de votre difficulté et nous voulons vous aider pour ne pas que ce média meure. Et parce que quand ce média meurt, c'est pas seulement un seul patron qui va perdre ses émetteurs, c'est une dizaine ou une vingtaine de journalistes, techniciens et autres qui perdront leur travail. Donc il y a des questions qui ne méritent pas d'être posées parce que leur réponse, tout simplement, se trouve justement dans le quotidien de tout le monde. Donc dans ce sens, l'Urtelgui est assez responsable de prendre ses responsabilités en ce sens et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a jamais enregistré de problème en ce qui concerne le partage de la subvention. Et c'est ce qui a fait que nous avons fait ce partage comme tel. Et ce que le président a dit hier devant tout le monde, séance tenante, c'était de dire qu'il y avait des radios qui n'étaient pas encore venues chercher. Et c'était le cas de Bonheur. Bonheur FM, dont celui qui a son nom pour aller récupérer le chèque est en mission. Donc les autres ne pouvant pas partir. Et c'est hier même, ils ont rappelé par rapport à ça, parce qu'il va rentrer, je crois, dans 2 jours. L'autre, c'est Chérie FM, État TV, qui aujourd'hui traverse des difficultés. Et tout le monde connaît, c'est que Chérie a été ici en Guinée sous l'échiquier médiatique. L'un des premiers groupes de médias a instauré ce qu'on appelle le système JRI, journaliste reporter d'image, une dame qui a investi son argent pour justement permettre aux journalistes guinéens d'atteindre ce niveau de formation en termes de JRI, journaliste reporter d'image, être indépendant et ne pas être dépendant d'un technicien ou quoi d'autre. Aujourd'hui, si ce média traverse des difficultés, il ne relève pas de nos prérogatives en tant qu'institution Itergui, ne serait-ce qu'une année, même pas une année, de non-fonctionnement,
plus, hein.
D'oublier, de mettre, comment dire, ce média dans les oubliettes. Ça ne se fera pas, on ne souscrit pas à ça, et l'Itergui continuera à supporter les médias pour que justement le travail soit garanti.
Yassane,
oui, monsieur Camara, certes le temps ne nous permet pas, mais sauf que le président de la HAC a également dit clairement qu'il est inadmissible que des journaux bénéficient plus que les radios, sachant bien que les radios ont plus de charges que les journaux. Ces répartitions sont faites au sein de vos différentes associations.
Effectivement, au fait, le président de la HAC n'a fait que relayer ce que nous, les associations, qui prenons part au premier partage de la subvention entre les différents types de médias, nous avons fait comme rapport. Nous avons dit qu'il est inadmissible qu'une télé qui a des charges colossales et une radio puisse avoir moins d'argent que site internet ou un journal écrit. Ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'à l'UTEG, c'est justement la question. Nous, on n'a pas la culture d'écarter quelqu'un. Parce que l'investissement est trop. Pour entendre une radio, pour dire une radio, une télé, l'investissement de base est trop. Donc, on ne peut pas, pour des petites considérations, dire que tel ou tel ne peut pas avoir. Ce qui est compréhensible sur les sites internet ou les journaux écrits, où la charge n'est pas aussi que ça. Donc, ça fait que lorsque le montant est partagé en termes de pourcentage, il y a beaucoup d'argent qui vient dans ces associations de sites internet et de journaux.
Y compris la majorité de la presse.
Lorsqu'ils font, à la base, ils font la décantation des gens qui n'ont pas travaillé, ce qui est tout à fait aussi normal, il se trouve qu'il y a des médias là-bas qui se retrouvent avec beaucoup de montants, dépassant même les radios et les télés. Donc c'est ce que nous allons corriger. Et d'ailleurs, la décision a été prise pour que justement, dès que la LFR, la loi de finances rectificative, dès que le président de la République nous a promis une augmentation de la fourchette de la subvention accordée aux médias privés, nous attendons avec impatience cela, avec la LFR qui vient en septembre là. Donc, nous allons plancher avec l'arbitrage de la Haute Autorité de la Communication pour que dorénavant, ce partage se passe avec l'équité. Parce que, vous savez, à la différence entre l'égalité et l'équité, donc on doit faire l'équité dans ce niveau, c'est-à-dire tenir compte des charges des uns et des autres pour que justement, le travail que nous avons entamé dans ce consortium d'associations de médias, associations de médias, pour que ce travail aboutisse et que ça soit au bénéfice de tout et de toutes et de tous.
Monsieur Camara, avant de vous laisser partir, quelle est la nécessité d'organiser une synergie pour parler des acquis du CNRD?
La synergie, c'est une prérogative pour le moment de l'Union des radiodiffusions et télévisions du Guinée, dans ce sens que vous devez le savoir. À l'occasion des grands événements tels que les élections présidentielles, l'élection législative ou l'élection communautaire, nous prenons la responsabilité en accompagnement avec certains partenaires.
Sauf que nous ne sommes pas en élection, là. Nous ne sommes pas en élection.
Oui, suivez-moi. Donc, je vous dis bien que la synergie, elle est organisée à l'occasion des grands événements. Et nous pensons que c'est important pour nous, en tant qu'association de presse de l'audiovisuel, d'organiser une synergie, un plateau qui retrouvera les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les acteurs politiques et les acteurs de la société civile autour de leur plateau pour parler de ce qui a été posé comme acte et ce qui reste à faire. Et nous pensons que le peuple de Guinée, plus que jamais, a besoin de ce type d'initiative pour que justement la lanterne des uns et des autres soit éclairé sur ce qui est en train d'être fait. Nous avons grand besoin que chacun s'investisse.
Ça se passe tous les jours. Ça se passe tous les jours, M. Camara.
Oui, la synergie ne se passe pas tous les jours, je suis désolé.
Non, les
la
informations synergie... sur les réelles actions du gouvernement.
Oui, les informations se passent de façon. L'information qui se passe à Conakry, ce n'est pas la même information en temps réel qui se passe à Kindia.
Sauf qu'à Cancan. L'RTG à l'intérieur du pays. L'RTG à l'intérieur du pays.
Nous ne sommes pas la RTG, nous sommes les médias audiovisuels privés. Nous avons une cote de popularité auprès des citoyens qui fait que nous avons cette obligation morale, lorsque le besoin se fait sentir, de faire des événements pouvant permettre à ces populations d'être informées en temps réel, de comprendre l'évolution de leur pays. Et c'est ce que nous allons faire ce 4 septembre 2022, à l'occasion justement de l'an 1 de l'avènement du CNRD à la magistrature suprême du pays.
En attendant, mais, les médias qui ont perdu leur bien, c'est-à-dire du côté de PM3 de Matam, des radios qui ont été saccagées en 2009 et tant d'autres, ne figurent pas comme priorité au sein de l'Urtelgui.
Bon, peut-être que ça c'est vous qui le dites, parce que vous parlez quand même à quelqu'un qui a été enfermé justement à cause de ce que vous venez de dire. J'ai été ici pris 2 jours, et d'ailleurs c'est l'occasion de remercier toute la presse, parce que tout le monde s'est levé comme un seul homme. On l'a dit depuis les premières heures du CNRD que la presse est comme c'est un seul homme. Quand on touche un, c'est tout le monde qui se lève. Cela est une réalité et ça se matérialise tous les jours. Il faut que les gens s'inscrivent à cette idée. Cela ne veut pas dire que aussi nous sommes des organisations de va-t-en-guerre. Nous sommes des organisations qui promeuvent l'évolution positive de la presse, en un mot, l'évolution positive des structures que nous avons, des entreprises au sein desquelles se trouvent des journalistes qui ont pour métier d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population, sans compter les animateurs en langue, sans compter les autres, les techniciens, tous ces travailleurs-là. Nous avons l'obligation de défendre tout ceci. Et nous l'avons dit, nous avons tous ces... Je me rappelle, Sabari, qui a été saccagé ici à cause justement... De l'actualité, des actualités de politiques. À un moment donné, il faut qu'on se remette en cause et qu'on comprenne ce que nous voulons réellement. Il y a d'autres médias, Arafo, qui a subi aussi, avait essuyé la colère d'une partie, comment dirais-je, des militants d'un parti politique. Il y a d'autres médias ici. Nous, au temps d'Alpha Condé, on a subi beaucoup de choses. Ranga a été fermé parce qu'elle a donné la parole à Souba. Moi, personnellement, j'ai été privé de ma liberté. Toute la presse est libre. Donc, on a toutes ces réalités, nous connaissons. Est-ce que pour autant, cela nous donne le droit d'abandonner notre principe sacro-saint qui est d'informer, de sensibiliser la population?
Pourquoi pas au temps d'Alpha Condé? Parce qu'Alpha a fait 11 ans au pouvoir.
Pour la synergie, rapidement.
La synergie pour une année de gestion d'Alpha Condé, on n'en a pas vu, M. Camara.
Mais on a fait plusieurs synergies même.
Non,
mais
ça c'est pendant des élections. Ça c'est pendant des élections, on n'a pas vu
des synergies. Vous voulez dire une synergie pour parler
des acquis? Oui, tout à fait.
Oui. Mais ce que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas. C'est une bonne question.
Rapidement.
C'est une excellente question d'ailleurs. Au temps d'Alpha Condé, il y a eu beaucoup de problèmes que nous avons eus ici, dans l'exercice du métier. Il y a eu même ce qu'on appelle les journées sans presse à la République de Guinée.
C'est des raisons qui vous ont empêché de faire une signature.
Pas des raisons. Mais quand on dit bilan, écoutez, il ne faut pas déplacer le débat. Quand on dit bilan, le bilan, c'est pour parler du factuel, ce qui a été fait. Voilà, sous le règne d'Alpha Condé, nous avons fait des synergies ici pour réclamer à ce que la loi sur la liberté de la presse soit respectée. Nous avons fait des journées sans presse ici. Nous avons fait des synergies à l'occasion des élections, si vous voulez parler de ça. Des élections, des différentes élections, qui quand même des synergies qui ont permis de donner les résultats issus des bureaux de vote. Et toute la population guinéenne était accrochée aux radios, aux télé pour suivre ces résultats en temps réel. Et nous savons ce que ça a apporté au pays.
Monsieur Camara, là n'est pas la question. Le professeur Alpha Condé.
Le professeur Alpha Condé. Ce que vous voulez me donner spécifiquement pour que je donne à l'antenne.
Le professeur Alpha Condé.
Vous me donnez.
Non. Le professeur Alpha Condé a été élu le 7 novembre 2010. Il a été investi le 21 décembre 2010. Le 21 oui. décembre 2011, la Guinée n'a pas connu de synergie de radio privée. C'est de ça on parle.
Non, c'est pas vrai. Je vous dis, je m'inscris en fou. Arrêtez, il faut foutre. On dit, les journalistes sont quand même assez responsables.
Pour être sauf que nous étions là en 2010.
Nous sommes dans une radio quand même qui est Sabari, qui est sur l'ensemble du territoire très suivi. Donc, c'est des milliers de personnes qui le suivent. Donc, quand on parle, rapidement. Il faut prendre la mesure de la chose. Nous avons organisé ici une synergie. La dernière en date, c'était une synergie d'information même et de remerciements. Quand il a été question que le gouvernement accède à la demande de l'audiovisuel privé qui était de réduire l'assiette de la subvention, l'assiette de la redevance annuelle que les médias payent au titre de l'allocation des fréquences à la RTT. Le montant qui est passé de 150 millions à 50 millions à 15 millions pour les télés et de 25 millions à 7 500 pour les radios commerciales et 5 millions pour les radios communautaires. Quand cet arrêté conjoint a été pris à l'initiative de l'UTEGI qui est allé à l'époque au Sanou Kefa, c'est à l'UTEGI qu'on est allé faire les démarches et que le président a accepté, le ministre a accepté et il y a eu cette signature, nous sommes passés dans tous les médias, on a même fait une synergie de remerciement pour dire ce qui a été fait. Donc quand on pose du bien en ce qui concerne à l'égard de la paix, la presse, la mémoire, elle parle tout comme ce qui lui a été fait en bien et ce qui a été fait en mal. Okay. Donc cela n'a rien à voir avec l'identité de quelqu'un. Et ce que nous sommes en train de faire, la Guinée est à une période très sensible. Il faut le comprendre. Et nous sommes les premiers à le comprendre. Nous avons déjà dit que la réussite de cette transition, elle dépend à 60 à 70% à la presse que nous sommes, à ce que nous faisons. Monsieur... Parce que nous détenons une arme, qui est une arme efficace, qui est une arme fatale aussi si nous ne savons pas l'utiliser. C'est pourquoi nous disons que nous avons, la responsabilité de faire en sorte que la transition la réussisse. Parce que si elle réussit, c'est pour le peuple. Aujourd'hui, aucun journaliste ne veut demain qu'on dise que les gens sont en train de mourir. Et c'est ça notre rôle, sensibiliser, éduquer et informer.
Merci beaucoup, M. Abakar Camara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée.
Cette émission est une rediffusion.
À présent, nous allons partir avec notre invité, M. Mohamed Cissé. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour et bonjour à vos auditeurs.
Je rappelais que vous êtes le responsable de la communication du Parti de l'Espoir pour le Développement National de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Tout d'abord, dites-nous, quelle lecture fait le PDN sur la gestion, la conduite de la transition par l'équipe de Colonel Mamadi Doumbouya?
Nous disons que la situation reste encore sensible. Et le CNRD est venu à un moment donné où pratiquement l'essentiel des partis politiques étaient dans une situation, je dirais même de blocage, même si des activités étaient sur le terrain chez certains partis politiques, mais d'autres n'avaient même plus accès à leur siège. Et ils sont venus, il y a des gens qui ont été libérés, même si à l'époque nous avons dit que pour tout ce qu'on pouvait avoir comme respect pour la justice, la meilleure manière aurait été de faire passer cela par la justice aussi, mais de toute façon, suite à un coup d'État, c'est des choses qui arrivent. Et après cela, il y a eu beaucoup d'annonces que tout le monde a accueillies. Et il y a eu des consultations. Et je rappelle que la première concertation au palais, nous n'avons pas eu accès à la salle, parce que 2 heures avant même l'heure, la salle était remplie. Et nous avons continué les réflexions autour de cela. Il a été demandé aux partis politiques de faire des mémos. À l'époque, nous étions dans FNDC politique. Nous avons fait
un mémo. Vous avez quitté d'ailleurs ?
Oui, absolument, au mois d'avril. Nous avons fait un mémo et nous avons adressé au CNRD. Mais il se trouve que le contenu des mémos ne correspondait pas à ce que le CNRD envisageait. Et nous leur avons dit de nous proposer des contenus alors. Parce que selon le PDN depuis 2009 d'ailleurs, nous avons toujours dit qu'il ne faut jamais s'élever, dire qu'il faut des élections dans 6 mois ou dans 1 an. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on compte faire dans la transition. Et c'est en fonction de cela que nous pouvons déterminer le délai. Et sur la base de cela, nous avons évalué et nous avons estimé que tout ce que le CNRD a demandé essentiellement peut se faire en 24 mois et partant du 1er juillet. Et nous sommes à ce niveau pour l'instant. Il y a eu beaucoup de divergences par rapport à la conduite du dialogue. Il y en a qui estiment qu'il ne faut pas appeler dialogue mais concertation mais dialogue. Et nous avons dit que ce n'est pas pertinent dans la mesure où pendant tout le temps du professeur Alpha Condé nous avons eu des dialogues, ce n'était pas des concertations, mais on s'est toujours plaint que ces conclusions ne sont pas respectées. C'est pour dire que l'appellation dialogue ou concertation ne garantit pas le respect des conclusions. Uh-huh. Et d'autres disent qu'il faut la publication des biens des ministres. Uh-huh. Nous disons que c'est un principe... C'est un principe, y compris des partis politiques. Uh-huh. Nous disons que c'est un principe de gouvernance appréciable, mais ça ne doit pas être un obstacle à la promotion de la paix en Guinée, surtout le fait de se retrouver autour de la table. Parce que jusqu'en 2020, si vous vous souvenez, nous étions là à demander le dialogue au professeur Alpha Condé. Pourtant, le gouvernement qui était en cours n'avait pas déclaré ses biens. Et ils disent encore qu'il faut que le CNRD publie sa liste. Nous disons également que ce n'est pas pertinent pour exiger le retour autour de la table. Parce que nous avons fait ces consultations, la liste n'était pas connue. Nous avons fait ces concertations, la liste n'était pas connue. Nous avons proposé des mémos, la liste n'était pas connue. Ce n'était pas dans ces mémos qu'il fallait publier la liste. La charte est venue qui a dit que c'est l'ensemble des forces de sécurité et de défense. Nous avons accepté la charte, nous n'avons pas exigé la liste. Et aujourd'hui, demander la liste, c'est refuser la charte. Dans ces dispositions, nous disons que on peut même bien réclamer, mais il faut être autour de la table. On ne peut pas dire que sans cela, on ne peut pas venir autour de la table. Ils disent aussi de libérer systématiquement les prisonniers
politiques
qu'ils qualifient de politiques et de cesser systématiquement également les poursuites judiciaires. Nous disons également que nous sommes contre et tout ce que nous pouvons solliciter, c'est de garantir le droit de ceux qui sont concernés, avoir un procès équitable, diligenter le processus. Ainsi, ceux qui sont coupables vont payer et ceux qui seront innocents aussi procéderont au lavage de leur honneur. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'il y a comme préalable pour des raisons objectives que nous avons manifestées. Et nous restons dans ça. Nous soutenons le processus engagé par la CEDEAO. Nous étions à la concertation. Nous avons donné notre point de vue sur toutes ces questions.
Lorsque d'aucuns posent comme condition la publication des listes des membres du CNRD, vous ne trouvez pas cela nécessaire, d'autant plus que le colonel Doumbouya a clairement dit qu'aucun membre du gouvernement du CNT du CNRD ne sera président, ne sera candidat en tout cas aux prochaines élections à République de Guinée. Partir dans le flou sans connaître les membres du CNRD, vous ne trouvez pas cela nécessaire? Deuxième question, nous sommes le premier ou quatre jours seulement nous séparent du premier anniversaire du CNRD au pouvoir. Globalement, en tout cas du point de vue administratif, quel regard portez-vous sur l'an 1, ces 12 derniers mois de gestion du colonel du CNRD?
Pour la première question, nous disons que ce n'est pas aussi nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Si le CNRD a un candidat et qu'il a dit que les membres du CNRD ne se présenteront pas, sont-ils obligés de mettre le nom de ce candidat potentiel sur leur liste?
C'est-à-dire?
La crainte évoquée que non, le CNRD pourrait avoir des candidats qu'on ne connaîtrait pas.
Mais d'ailleurs, on accuse votre...
Même si le CNRD publiait la liste, est-ce que le CNRD est obligé de mettre le nom de son candidat dedans si le CNRD veut soutenir un civil? C'est pour dire que ça ne tient pas la route. Et deuxièmement, on dit non, on doit savoir ceux qui ont géré le pays. Vous êtes en train de dire au CNRD dans ces cas, dès que vous quittez le pouvoir, nous allons vous poursuivre. Il faut faire attention. Il faut que la passion quitte le débat. Et tout ce qu'on dit là, tous ceux qui sont poursuivis aujourd'hui, est-ce qu'ils ont tous déclaré leur bien? Est-ce que cela a empêché qu'on sache comment ils ont géré le pays? Si vous êtes ministre et que vous avez un immeuble, vous avez acheté des actions dans une société ou bien vous avez des investissements ailleurs, ces investissements ont une date. Votre arrivée au ministère a une date. Donc, il faut sortir des artifices et s'occuper des problèmes essentiels. Aujourd'hui, nous, ça fait maintenant un mois, nous ne parlons que de libération, des droits de manifester, droits de l'homme. On a cessé de parler de délais. Et c'est tout ce que nous avions dit, que si nous ne faisons pas attention, à force de vouloir qu'on parte vite, on risque de retarder. Et c'est ce qui nous a causé. Bilan de la transition, il y a des actes majeurs. Il y a encore de l'espoir de notre point de vue. Disons pas que tout ce qui est fait est parfait. C'est la nature aussi du régime, il faut le savoir. Nous n'avons pas la prétention d'imposer au CNRD tout ce qu'on pourrait imposer à un régime élu. Il faut être rationnel là-dessus. Donc, c'est des gens qui ils ne sont pas comme nous autres qui passons 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans à chercher le pouvoir et à créer des conditions d'une gestion subtile de ces pouvoirs. C'est des gens qui sont venus par circonstances, qui sont là. Il faut les aider à faire en sorte que les dégâts soient moindres, parce que quiconque viendra après doit venir avec un programme de société. Si vous ne les aidez pas à limiter les dégâts, vous risquez de prendre un quinquennat pour vous occuper de ce qu'ils auraient gâté. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas un parti politique qui est au pouvoir. Nous ne sommes ni dans l'opposition ni dans la mouvance aujourd'hui, et il ne saurait y avoir de l'opposition ou de mouvance. Nous disons qu'il faut accompagner l'équipe en cours, pas forcément soutenir le CNR en tant qu'une mouvance, mais soutenir le processus pour qu'il aboutisse, parce que s'il n'aboutit pas, nous perdons tous.
Éloi, alors, vous soutenez aujourd'hui des militaires qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans leur gestion?
Ce que nous n'apprécions pas, c'est la lenteur dans le processus de dialogue. C'est aussi l'anticipation de certains processus, parce que ça arrive souvent. Je vous rappelle que au moment des déguerpissements, il était question que tous ceux qui sont au niveau de la cité ministérielle quittent. Mmh. Et il a fallu qu'il y ait des plaidoyers après et l'explication du contexte historique pour qu'ils comprennent qu'il y a des familles qui ne sont pas concernées. C'est le cas, je crois, de la famille de Barry Diawadou, c'est le cas de la famille de doyen Mamadi Kondé, et ainsi de suite. Mmh. Donc, tous ceux-ci ont été épargnés. Donc, quand c'est un régime, il peut faire la part des choses, mais ceux qui sont venus, il faut comprendre leur nature, la nature de leur tempérament, leur fonctionnement. Moi, je les trouve d'ailleurs sages par rapport aux autres, parce que nous avons vu au temps du CNDD. Oui. Mais il faut voir, nous avons vu des procès dans le camp, mm-hmm. avec, je crois, il était commandant ou colonel
capitaine,
à l'époque.
Issa Kamara.
Non, Issa d'abord. Mm. C'était avec Issa. Il y a des gens qui venaient en procès au camp. Mm. Cette année, on n'a pas eu, on peut dire qu'on est on peut être insatisfait mm-hmm. du processus, mais quand même mm-hmm. la justice est au centre du débat. Mm-hmm. Ce n'était pas le
même
cas.
Même s'il y a des prisonniers sans motif,
moi je ne connais aucun prisonnier qui ne serait pas là pour un motif, mm-hmm. qu'on soit d'accord avec le motif ou pas.
Motif officiel,
c'est peut-être, c'est tout ce qui est officiel n'est pas public. Mm-hmm. Il faut pas confondre les deux. Mm-hmm. Ça peut être officiel et que vous n'avez pas le contenu. Mm-hmm. Donc j'estime que tous ceux qui y sont, on peut ne pas être d'accord avec les motifs, mmh. mais les procureurs ont toujours dit nous les prenons à cause de tel et tel dossier.
Mmh. Yassane,
on accuse votre leader, Lansana Kouyaté, d'avoir des acquaintances avec le CNRD. Pour preuve, beaucoup de leaders sont inquiétés aujourd'hui de quitter le territoire. Mamadou Sylla ne s'est pas gêné d'ailleurs de le dire récemment. Il y a une liste noire qui serait du côté de l'aéroport interdisant plusieurs leaders politiques de quitter le territoire, en tout cas de se déplacer en dehors du territoire national. Sauf que votre leader aujourd'hui est sorti du territoire, ça, et battrait campagne pour le CNRD au niveau de la sous-région. Au regard des listes que le CNRD publie, en tout cas que la justice publié dans le cadre des dossiers de la CRIEF de présumé de détournement, par exemple, on estime que c'est pratiquement fait exprès de mettre de côté les dossiers dans lesquels Lansana Kouyaté serait cité. Est-ce qu'il n'y a pas d'acquaintance? Est-ce qu'aujourd'hui ces actions ne donnent pas raison à ceux qui disent qu'il y a des acquaintances entre le PEDN et le CNRD?
La thèse là, c'est comme quand on dit votre nom, s'il vous plaît.
Yansané.
Tous les vieux ont des cheveux blancs. Yansané a des cheveux blancs. Yansané est vieux. Mm. Ce n'est pas parce que les autres partis sont inquiétés que Lansana Kouyaté serait forcément. Ils sont inquiétés aussi, par rapport. Oui, nous. Et d'ailleurs, nous sommes très fiers de sa gestion. Il y a deux sujets qui reviennent sur la table. Mmh. Et nous avons tellement expliqué que mais quand votre adversaire estime toujours qu'on doit trouver quelque chose contre vous, mmh. on continue à insister là-dessus. Mmh. Premièrement, c'est le projet Coton. Dès que ça a été mis dans le dossier de la CREF, projet Coton, tout le monde s'est agité. Ah, Lansana Kouyaté est concerné. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le projet Coton avant Lansana Kouyaté ou bien le projet Coton après Lansana Kouyaté? Parce qu'il y a une sorte de paresse en termes de réflexion. Une idée tombe seulement, on fait le raccourci. Mmh. Deuxièmement, le projet Coton sous Lansana Kouyaté a été jugé ici en Guinée au temps du professeur Alpha Condé. Et croyez-moi, s'il avait un atome de responsabilité dedans, le professeur Alpha Condé aurait mis main sur lui. Mmh. Et ça a été jugé.
D'Alpha Condé à un
ça,
moment donné.
Oui, ça c'était après sa sortie que ça a été jugé. Mmh. Après la démission d'ailleurs de ses ministres. Mmh. C'était en 2012.
Ousmane Doré.
Oui, non, c'était pas Ousmane Doré, c'était Souleymane Cissé qui était au plan, c'était aussi M. Koulibaly qui était au contrôle économique. Quand ça a été jugé au niveau du tribunal de première instance, il s'est avéré que, selon ce jugement, que le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture sont fautifs. Le ministre de l'économie était en fonction quelque part en Afrique, il est rentré et il a fait appel. Au niveau de la cour d'appel, ça a été jugé encore et il s'est avéré que le ministre de l'économie n'est même pas concerné par un tel processus. Ça ne peut se circonscrire qu'au niveau du ministère de l'Agriculture et le jugement du ministre de l'Agriculture a été confirmé. Point final. Ça, c'est le projet Coton. Dans ce processus, il n'a jamais été question du nom de l'ancien acuité. Et à l'époque, quand ça, le débat a été posé, il a annoncé que si jamais il est cité, qu'il est prêt en toute responsabilité de venir répondre parce qu'il n'a rien à se reprocher. Ça, c'est de la responsabilité. Deuxièmement, on parle de
d'acquaintance.
Deuxième dossier que les gens citent souvent, c'est le dossier BNP Paribas. La Guinée avait un fonds à Zurich qui était populairement appelé un fonds broqué pour la génération future. Mais que les prédécesseurs, certainement la génération des cellules, l'impuisaient. Parce que le fonds n'était pas aussi bloqué que ça.
Est-ce que vous avez des preuves pour
J'ai dit, le mouvement du fonds est évident. Le mouvement antérieur du fonds était évident avant l'ancien acuité. Donc, ces générations qui étaient au pouvoir, c'est la génération Selou. Je ne dis pas Selou dans la personne, mais j'ai dit sa génération. Et c'était une équipe gouvernementale. Maintenant, quand il est venu, il s'est avéré qu'il y avait des problèmes liés à l'électricité. Il y a des quartiers qui n'avaient jamais eu de l'eau. Qui avaient des robinets, certains avaient fait des années sans avoir une goutte d'eau dans leurs robinets. Il y avait un programme d'urgence là-dessus. Et il y avait un premier fonds de 10 millions d'euros que Chirac avait mis à disposition, mais ce n'était pas suffisant. Ça, c'était orienté côté eau. Mais il y avait un fonds qu'il fallait mobiliser pour un programme d'urgence en matière d'électricité. Parce qu'au niveau de Tombo, il n'y avait que pratiquement une machine qui fonctionnait. Les autres étaient en panne, d'autres n'étaient même pratiquement plus utilisables. Donc, il fallait trouver le financement. Le BNP Paribas était disposé à financer l'EDG. Mais il fallait une garantie. Donc, l'analyse a été faite. Le rapport commercial entre la Suisse et la Guinée est très faible, presque inexistant. Il y a un fonds là-bas qui est en épargne, mais le fonds ne sert que ce que ça peut donner comme intérêt. Quand on amène ce fonds à BNP Paribas, dans un compte au nom de la Banque centrale, tout en notant que la Banque centrale avait déjà un compte au BNP Paribas, un deuxième compte a été créé au BNP Paribas au nom de la même Banque centrale. Le fonds-là a été amené là-bas.
Donc, votre président n'a rien à voir dans ça.
Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand le fonds a été envoyé, c'était mis encore en épargne. Ce qui veut dire que le même fonds continue à donner les mêmes intérêts. Mais un deuxième rôle joué par le fonds, c'était considéré aussi comme un fonds de garantie. BNP Paribas finance EDG à travers la Banque centrale. EDG investit dans ses infrastructures. Quand EDG vend de l'électricité, EDG rembourse l'argent. Maintenant, quand ça arrive à la Banque centrale vire le remboursement. S'il arrive qu'il y ait des retards ou bien des manquements de paiement, c'est à partir de là que c'est pris dans le fonds de réserve qui est là, qui est en épargne. Mais tout son temps, il n'y a pas eu de manquement de retard, donc le fonds n'a pas été touché. Il n'y a eu que transfert de fonds d'un pays, d'une banque à une autre banque, pour non seulement donner des intérêts période par période, mais pour servir aussi de garantie pour financer des infrastructures dans
par
le domaine.
Par conséquent, il ne se reproche de rien.
C'est tout. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme à l'époque, on voulait l'abattre,
Qui voulait l'abattre?
Non, c'est ceux qui croyaient, estimaient à l'époque.
Qui, par exemple?
Il y avait un club des anciens premiers ministres qui était là.
Vous voulez parler de celui
Il y avait un club aussi des opérateurs qui avaient. Il y avait un club des opérateurs qui avaient le monopole sur l'économie quand il a diversifié, qui était sur son dos, dont les Mamadou Sylla et autres. Maintenant, ils ont formé une commission parlementaire sur son pari. La commission parlementaire a été envoyée en France pour aller enquêter. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont revenus avec leur rapport. Le président a tout fait pour qu'il publie le rapport, parce que quand on part chercher
l'ancien Akouyaté,
il a tout fait pour que à l'époque le Parlement, parce qu'il a même dit lors de ses communications, si vous revenez sur ces images, une fois au Parlement, il dit non, vous avez envoyé une mission parlementaire, monsieur le président de l'Assemblée. Quand vous travaillez au nom du peuple, vous devez dire au peuple ce que vous avez trouvé. Je vous invite à publier le rapport des missions parlementaires. Ils n'ont jamais publié parce qu'il n'y avait rien dedans. Et les confidences qu'une dame qui était dans la délégation est venue lui dire un jour, c'était de dire, monsieur le Premier ministre, en réalité, il y avait un problème de 400 et quelques millions en jeu qu'on voulait coûte que coûte décaisser et il fallait avoir une telle mission pour justifier la sortie. Alors, dans ce dossier, c'est vide. Il n'y a absolument rien. À part cela, on cherche, mais on ne trouve pas quoi lui reprocher. Et pour les autres, c'est évident. On n'a pas besoin de chercher trop. Nous avons des rails qui étaient là, on ne voit plus sur le sujet.
C'est la question d'acquaintance entre le PDN et le CNRD. Qu'en dites-vous? Parce qu'on soupçonne Kouyaté d'être le candidat sous l'ombre du CNRD.
J'ai dit Amine. J'ai dit Amine.
Donc là,
j'ai dit Amine. C'est une prière que je réponds. J'ai dit Amine, qu'il en soit ainsi. Mais pour l'instant, Kouyaté est celui que vous avez connu au temps du professeur Alpha Condé, qui a une conviction, qui a une ligne de conduite et qui est prêt à tout perdre pour cette valeur s'il est convaincu qu'il est sur le droit chemin. Telle est la caractéristique de notre combat.
Quel est l'objet de sa mission de la sous-région?
Il est en mission de parti.
Il est en mission du CNRD pour expliquer non seulement à la CEDEAO, à l'Union africaine, les motifs qu'il faille vraiment laisser le CNRD aller au bout de ces 3 ans.
Dans ce cas, il fallait dire qu'il est en mission à Washington. Et ce Kouyaté n'a pas besoin de se déplacer pour faire bouger les lignes au niveau de la CEDEAO. Il peut rester ici dans son salon appelé.
Non, c'est différent.
Non, ce n'est pas
quand
différent.
On est face à face avec.
Non, ça n'a rien. Il a dépassé ses niveaux d'efficacité qui nécessite sa présence. Aussi. Sécurité de qui?
Non, on ne sait jamais. Parce que
parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde diplomatique. On peut parler, même des satellites ne verront pas. Donc ça, c'est une autre chose. Il est en mission du parti. Et on l'a appelé pour venir. Il est venu. Je rappelle que le parti l'avait appelé. On l'a envoyé le message un jeudi. Après la réunion du bureau exécutif, à l'époque c'était le jeudi, et le mardi il est rentré. Après le 5 septembre, il a pris près de 6 mois avant de venir. Maintenant, quand il est venu, on a évalué la situation par rapport à l'extérieur et il lui a été dit d'aller régler un certain nombre de choses, surtout au niveau de la sous-région. Et hier même, lors des missions, il a identifié les inspecteurs au niveau de la CEDEAO et lors des missions a été envoyé hier, et il y a des gens même qui vont commencer à bouger. Le 11 de ce mois, je crois, la Fédération de Togo sera installée. Celui de Bénin en consultation, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso. Donc, il a été ailleurs aussi pour relancer des activités. Vous avez vu des récentes activités de la France depuis sa sortie. Donc, il est en train de préparer les fédérations à se mettre dans l'ordre des batailles. Conformément
à ce qu'il a connu. Avec la mission du CNRD.
Il est en mission du parti.
Ok, Yassane, rapidement.
Aucune organisation internationale, en tout cas, organisation internationale ne prétend soutenir un coup d'État. L'ancien Kouyaté a fait carrière dans la diplomatie. Aujourd'hui, c'est ce même leader politique, ce diplomate qui soutient pratiquement le CNRD. D'ailleurs, beaucoup estiment que le PEDN est la mouvance du CNRD. Comment comprenez-vous cette démarche? Deuxième question, rapidement. Le PEDN aujourd'hui souffre sur le terrain. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Les résultats des dernières élections l'ont prouvé clairement.
Par le BL de Faya.
Oui, les résultats l'ont prouvé clairement. Comment se porte votre formation sur le terrain?
Pour la dernière question, j'ai dit que vous êtes dans la préhistoire et nous sommes dans le présent. En matière politique, c'est la préhistoire. Et il y a des partis en Guinée qui ont été créés pour dire aux Guinéens que le PEDN est tellement petit que ceux qui viennent de venir l'ont dépassé, nous ne rentrons pas dans ces détails, mais je vous dis aujourd'hui, avant le 5 septembre, vous pouvez vérifier et je vous invite à aller sur nos canaux officiels et remonter jusqu'au mois d'août 2021. Si vous ne trouvez pas ce que j'ai dit là, venez démentir. L'unique parti politique qui tenait régulièrement ses réunions à l'intérieur du pays, c'était le PEDN avant le 5 septembre. Et d'ailleurs, à Conakry, les autres cessaient de tenir leur assemblée générale.
Parce qu'ils étaient
depuis le 5 septembre, l'unique parti sans interruption, à part la suspension pour le mois de Ramadan et les samedis d'assainissement, et quand il y a forte pluie, on dit aux militants de rester à la maison pour des raisons de sécurité. Mmh. Le parti n'a jamais cessé des activités à Conakry, okay, et n'a jamais cessé des activités à l'intérieur du pays. Allez sur ces pages, remontez. Si vous ne trouvez pas des vidéos une seule semaine, des vidéos à l'intérieur du pays ou à Conakry, revenez dire que l'OPDN n'existe pas. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule commune rurale où l'OPDN n'est pas représenté en République. Sur les 337 communes rurales à l'intérieur du pays, nous sommes représentés, et sans parler des communes urbaines. RPG n'a atteint cette efficacité qu'une fois au pouvoir.
Alors, la deuxième question, comment comprenez-vous
diplomate.
Je vous rappelle que tout ce dont on parle aujourd'hui, ce qui alimente d'ailleurs le débat, protocole de prévention, gestion de conflits, protocole additionnel, qu'il a mis en place. Et il a décrit l'historique derrière. Ils ont passé des années à l'époque aux Nations Unies à faire des forums et des forums à travers le monde pour voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour empêcher. La première théorie disait qu'il faut naturellement condamner les coups d'État. La deuxième théorie disait que non, les coups d'État peuvent être constitutionnels. Donc si le coup d'État est constitutionnel, donc on peut aussi comprendre que l'armée reprenne le pouvoir. Donc il a été dans un premier temps dit qu'il faut systématiquement condamner le coup d'État. Ensuite, il a fait un protocole additionnel pour empêcher le coup d'État constitutionnel. Mais en Guinée, je crois que c'est un ou deux jours avant juste les délais de 6 mois, peut-être il faut ramener à 1 an maintenant, qu'il y a eu changement de constitution ici. C'est qu'ils ont utilisé ce timing pour empêcher la CEDEAO d'intervenir. Mais qu'est-ce qui est plus important? Du point de vue politique au PDN, le coup d'État, ce que vous appelez le coup d'État pour le 5 septembre, nous l'avons appelé le coup d'État de 2020.
Il n'y a pas eu de coup d'État.
Un putschiste a été chassé du pouvoir par un militaire.
Sauf qu'Alpha a été élu à l'issue
d'une élection que nous n'avons jamais reconnue. Et nous avons clairement dit dans notre communication avant ces élections que toute institution issue de ces élections ne seront pas reconnues de nous. Et ça a été notre discours. Nous avons été cohérents dans notre démarche et nous sommes dans cette cohérence. Maintenant, ceux qui ont combattu tout cela et qui ont dit qu'il ne doit pas y avoir de nouvelle constitution et qui ont été aux élections et moyennant des négociations initiées par eux-mêmes, c'est à eux il faut poser la question.
Ah, c'est nous, parce que vous voulez
c'est nous à négocier, par ses amis communs avec Alpha Condé à l'étranger pour participer à ces élections. Ce que Alpha Condé ignorait est que ce que c'est nous prévoyait sa déclaration de victoire avant même la fermeture du dernier bureau de vote.
Chose qu'il a eu à faire. Faya.
Oui, nous savons que l'absence de votre président sur l'échiquier national cause d'énormes dégâts au parti. Quand on sait qu'après son départ, il y a eu quand même un vide sur le terrain. Et le président est parti pour combien de temps? Il revient quand? Et quand on sait que vous avez toujours des difficultés à même mobiliser, l'autre fois, il y a eu, selon nos sources d'information, l'Assemblée générale serait même annulée.
Cette émission est une rediffusion.
Il a fallu envoyer les bus à l'intérieur.
C'est la question.
Il sera là en combien de temps?
Vous voyez pourquoi il y a des bruits là-dessus?
Allez-y.
C'est votre source qui est assise à ma gauche.
Ce n'est pas ma source.
Premièrement, il n'y a pas eu de retard. C'est absolument faux. Nous avons vu des articles où il était dit que le secrétaire national a dit que les gens sont envoyés pour prendre dans les bus. Le secrétaire national n'a pas eu d'interview avec quelqu'un. Je dément cela aussi. Deuxièmement, je vous renvoie à l'image de Guinée News. Guinée News a fait le direct sur sa page. Vous verrez si la salle n'était pas
assez. Sauf qu'après.
Après, c'est quoi? C'était prévu à 12h30. 11h30, déjà, la salle était pratiquement à moitié. Vers 12h30, la salle était pleine. Le président a été en vidéoconférence à partir de 12h30. Pile, il était à côté de moi.
Quel correct.
Il est assis là.
Alors, aujourd'hui, rapidement, c'est fini.
Je vous montre la programmation de la vidéoconférence. C'était bien mis 12h30.
Allez-y, Yassali, rapidement.
Il sera rapidement. C'est une question de moi.
Éloi, là, c'est fini.
Association, vous demandez de donner une note au CNRD aujourd'hui.
7.
sur 10.
Ok. On vous écoute à Kankan, à Kissidougou, à Dalaba et à Kindia. Un message à l'endroit de vos militants.
Nous disons à nos militants que nous les remercions, nous les félicitons pour leur prouesse dans les districts et les quartiers ces derniers temps. Nous leur disons que l'ensemble Kouyaté est parti en mission également à l'extérieur. Ils n'ont qu'à se préparer. Dès que le calendrier sera défini, nous n'attendons que la formalité parce que notre victoire est assurée compte tenu de tout ce qu'ils font dans la Guinée profonde.
Là, ça confirme.
La Guinée,
ça confirme
la, Guinée, la Guinée ne se résume pas à Conakry. Donc, l'intérieur nous appartient.
Mohamed Cissé, responsable de la communication du Parti de l'Espoir pour le Développement National, a été avec nous dans cette émission. Mohamed Lamine Niassané, merci d'être passé dans cette émission.
Merci beaucoup.
Faya Eloi Kamano.
Merci.
Merci. Technique à Nfamoussa Souma. Grand merci à nos techniciens de l'intérieur du pays, Kissidougou, Kankan, Dalaba, Kindia, mais aussi à Conakry et à l'extérieur du pays, ceux-là qui nous ont suivis via notre page Facebook, Sabari FM 97.3. Rendez-vous est fixé pour demain à partir de 7h30.